Yes. We do have to get off the air because we are live from West Haven. This is Teen Talks. My name is Kim Dominique Ferguson. I'm in studios with
Nefertari.
Phenomenal.
And Simplicita.
With Ziploc Stephen Hennessy.
And you've been listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
Thank you.
Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90.3 FM CKUT.
Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.
Aș vrea să-ți fiu eu liniște, când zgomotul te fură. Să vindec toate rănile în vreme de furtună.
Yeah.
La ce te gândești când ți-e privirea în gol? Unde-ți pleacă vișele stop? La ce te gândești? Ești aici sau nu ești? Când te uiți la mine, mă mai vezi pe mine.
Camara nu cunoaște ziduri. Și vreau să mă iubești așa cum nici odată n-ai iubit, nu. Cu simțurile toate calde și însetate, să simți că noi trăim ceva ce nu s-a mai trăit, Nici în cele mai perfecte vise, nu ca-n filme, nu ca prin reviste. Promisiunea mea eternă tu, doar să fii sincer și sincer să-mi spui
La ce te gândești când ți-e privirea în gol? Unde-ți pleacă vișele stop? La ce te gândești? Ești aici sau nu ești? Când te uiți la mine, mă mai vezi pe mine.
Everybody listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro.
Vous écoutez la deuxième partie de l'interview avec le journaliste Stanislas Tarnowski.
Écoutez, en termes de cybersécurité, très honnêtement, je n'ai vraiment pas d'opinion particulière sur la question. Très franchement, je ne sais pas qui sont les acteurs majeurs de la cybersécurité au Canada. Donc je, je serais bien en peine de vous donner une réponse très renseignée.
J'imagine que la même chose pour le Québec.
Il y a le combat culturel en fait contre l'anglophonie qui sont des choses qui nous sont très qui nous parlent beaucoup ici en France mais je dois avouer que alors je suis peut-être pas assez pointu pour le coup sur les domaines de cybersécurité pour savoir quels sont les acteurs importants québécois ou canadiens dans le domaine.
Et la place de la France?
La place de la France est comme dans bien d'autres domaines, assez modeste. On a des gros acteurs dans le domaine des télécoms. Enfin, Orange est présent, est très présent à l'international. On a quelques sociétés qui sont très innovantes et très, très pointues, dans le domaine de la cyber. Je pense que quand même, globalement, on n'est pas très on est plus très en pointe en tout cas si jamais on l'a été j'interviewais Monsieur Chalian qui est un Français d'origine et qui était conseiller du gouvernement américain pour les questions de cybersécurité qui avait même été chef de la cybersécurité de l'US Air Force. Et qui m'expliquait que voilà quand les acteurs français du cloud venaient le voir avec leurs propositions techniques, bon ça c'est pas très gentil, mais il rigolait parce que disait qu'on était tellement en retard sur d'un point de vue voilà d'un point de vue technique, d'un point de vue de solutions cyber que malgré toute la sympathie qu'il pouvait avoir pour ces acteurs français, il les retenait jamais. Il les retenait jamais.
C'est la même chose pour l'Italie, pour l'Allemagne, notamment des pays qui font partie de l'Union européenne et qui sont assez puissants, enfin, technologiquement dans le domaine des voitures, par exemple, et tout ça. Donc pour l'Allemagne, est-ce que de ce point de vue-là, toute l'Europe est en retard?
Toute l'Europe est en retard et donc comme on l'évoquait plus haut, il y a des plans d'investissement au niveau européen qui existent, mais qui représentent des pourcentages relativement ridicules par rapport à ce qui se fait par rapport à ce qui se fait notamment aux États-Unis et je pense aussi en Chine, même si on a beaucoup moins de données sur la Chine. Bon, très clairement, en fait, sur ces questions à la fois de cybersécurité, d'intelligence économique, d'intelligence artificielle, pardon, on a deux gros acteurs qui sont les États-Unis et la Chine. Bon, les États-Unis, c'est très évident. La Chine communique beaucoup moins, pour des raisons également évidentes, des raisons politiques, communique beaucoup moins, mais commence à être extrêmement en pointe. On voit que tout leur système, par exemple de crédit social, en Chine, repose de plus en plus sur l'intelligence artificielle, sur un certain nombre de pans très précis de l'intelligence artificielle, et que en termes de cybersécurité, alors eux, ils ont des politiques qui sont très simples, hein, ça n'empêche pas toutes les attaques, mais tout ce qui représente une menace est immédiatement coupé. Que ce soit une menace strictement cyber, que ce soit une menace qu'ils estiment politique, il y a un certain nombre de réseaux sociaux, de sites internet qui sont totalement inaccessibles en Chine. Voilà, ils prennent beaucoup moins de gants, ils prennent beaucoup moins de gants en termes de cyberdéfense, de contrôle de la population, ce qui évite aussi un certain nombre de cyberattaques. Et de contrôle social et politique.
Je sais que ce n'est pas nécessairement votre domaine, mais investir dans la cybersécurité serait un bon choix.
Alors, je vous confirme que l'aspect financier et boursier n'est pas mon domaine. Donc je m'en voudrais de donner à vos éditeurs des conseils d'investissement hasardeux. Ce qui est certain, c'est que c'est un domaine en pleine expansion. De plus en plus, il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché de la cyber. Il y a de plus en plus de PME qui émergent. Il y a des grosses boîtes qui sont très présentes sur ce marché. Et c'est un marché, de fait, qui est en pleine explosion, puisque les cyberattaques, elles se multiplient, que ce soit des cyberattaques à visée strictement criminelle, voilà, typiquement les ransomware, les vols de données, ce genre de choses, ou que ce soit des cyberattaques à visée plutôt politique ou étatique. Donc on pense à l'espionnage, on pense à des opérations de déstabilisation, etc. Donc oui, on va dire oui, c'est certainement une bonne idée d'investir dans la cybersécurité puisque c'est un domaine en pleine croissance. Maintenant, pitié, ne me demandez pas dans quelle boîte investir.
Non, non, pas du tout. Merci beaucoup. Une petite dernière question. Comment voyez-vous l'avenir de la guerre froide en technologie? Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont rester quand même le leader mondial du domaine technologique, cyber, intelligence artificielle?
Alors, c'est toujours extrêmement difficile de faire des pronostics. Il me semble que sur un certain nombre de plans, les États-Unis, ne sont déjà plus la première puissance, mondiale. Si on regarde le PIB par habitant, si on regarde, le taux de croissance, si on regarde, le nombre de brevets qui sont déposés, sur un certain nombre de domaines, et notamment les domaines, alors je dirais liés à l'informatique au sens large, donc qui comprennent évidemment la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Les États-Unis déposent moins de brevets maintenant que les Chinois, et c'est probablement la partie émergée de l'iceberg parce que voilà, les Chinois sont pas du genre à déposer des brevets à tort et à travers, et donc à devoir par là même rendre publiques leurs avancées technologiques. Bon, voilà, il me semble que la dynamique est plutôt du côté de la Chine. Après, évidemment, on a des acteurs américains qui sont encore de tout premier plan, qui ont une puissance de frappe considérable. Et on se retrouve, à mon sens, dans ce domaine comme dans des domaines plus larges au plan économique, au plan de la rivalité militaire. Dans ce qu'on appelle le piège de Thucydide, c'est-à-dire que quand vous avez une puissance montante et une puissance descendante, le moment où elles se croisent, où les courbes des deux se croisent, c'est-à-dire où la puissance qui était autrefois hégémonique voit son hégémonie contestée, voilà, ça c'est un moment très dangereux. Puisque la puissance hégémonique mais descendante aura tendance à tout faire, y compris les trucs les plus sales, pour conserver son hégémonie. Donc il me semble on est dans ce cas de figure, alors que ce soit dans le domaine de la cyber, de l'IA, mais aussi de la puissance militaire ou de la puissance économique. La Chine est clairement dans une dynamique ascendante. Les États-Unis connaissent de graves difficultés. Internes connaissent de graves difficultés à l'international aussi. Enfin, on a vu le succès très relatif, on va dire, de leurs dernières interventions, qu'il s'agisse de l'Irak, de la Syrie, de l'Afghanistan, et plus récemment de leur soutien très massif à l'Ukraine qui n'a pas produit les résultats escomptés, c'est le moins qu'on puisse dire.
Pourtant, on voit quand même une Russie, justement, militairement, très faible, d'après ce qu'on voit dans les médias occidentaux. Très faible et puis très corrompue aussi. On pensait, je pense que tout le monde pensait que la Russie était quand même une super puissance militaire, alors que là, ce qu'on voit sur le terrain, de loin évidemment, Ce n'est pas si impressionnant que ça.
Alors, ce que je nuancerais pas mal ces propos sur la corruption, oui, bien sûr, c'est un pays qui est très corrompu. Bon, on nous explique régulièrement que, en fait, la Russie, c'est pas un si grand pays que ça, parce qu'elle a environ le PIB de l'Espagne. Bon, pour les gens qui connaissent un petit peu la Russie, on sait qu'il y a effectivement une part de l'économie informelle qui est très importante. Et donc, le PIB peut être multiplié par deux environ. Si on ajoute voilà tout ce qui circule comme affaire en cash et qui donc échappe aux statistiques officielles. La faiblesse de la Russie, alors d'un point de vue économique, nous on avait un ministre de l'économie, Monsieur Bruno Le Maire, qui nous avait expliqué qu'on allait mettre la Russie à genoux grâce aux sanctions prises par l'Union européenne, par les États-Unis et par l'ensemble de l'Occident. Bon, il se trouve qu'actuellement c'est plutôt l'économie européenne qui est à genoux. L'économie russe se porte très bien. Elle a souffert sur certains plans des sanctions, mais en réalité, il semble qu'ils s'y étaient préparés, qu'ils avaient quand même assez largement anticipé le coup. On voit que, par exemple, les sanctions bancaires, le fait de soustraire la Russie du système SWIFT, donc qui est le système d'échange interbancaire au niveau mondial, n'a pas du tout produit les effets escomptés, puisque la Russie avait déjà préparé son propre système, qu'elle s'était branchée au système chinois. Enfin voilà, donc ils ont quand même pas mal contourné la question. D'un point de vue militaire, alors, il est certain qu'au début de cette guerre, il y a eu énormément de grosses erreurs du côté russe, et des erreurs presque plus psychologiques que militaires. Les Russes sont rentrés en Ukraine dans l'idée que, en fait, ils allaient délivrer leurs cousins slaves du joug d'un régime extrêmement corrompu. Alors la corruption en Russie, on en a parlé, mais le pays qui bat depuis des années tous les records de corruption, c'est quand même l'Ukraine. En tout cas, ils font au moins jeu égal avec la Russie. Bon, donc ils sont arrivés avec un contingent relativement limité. L'intervention russe au début de la guerre, c'était 150 000 hommes, c'est-à-dire environ un tiers des effectifs de l'armée ukrainienne. Donc on comprend par là qu'en tout cas, leur objectif n'était pas d'envahir la totalité de l'Ukraine. Vous envahissez pas un pays avec une armée qui représente un tiers des effectifs de l'armée d'en face. Enfin, ça n'existe pas. Mais voilà, ils ont quand même commis beaucoup d'erreurs. Ils se sont dit qu'ils allaient renverser, qu'ils allaient faire un coup de bluff en fonçant sur Kiev et que le régime de M. Zelensky allait s'effondrer comme un château de cartes. Ça n'a pas été le cas. Actuellement, d'un point de vue militaire, bon, quand ils ont vu que voilà cette stratégie de renversement du gouvernement ne fonctionnait pas, ils se sont repliés sur ce qu'ils considéraient comme leur but de guerre les plus stratégiques, c'est-à-dire la région du Donbass et en fait toute la côte est de l'Ukraine pour faire la jonction avec la Crimée. Et se sont mis en défense. Et l'armée russe est une armée qui est excellente en défense. On le voit avec les offensives tragiques de l'armée ukrainienne qui s'est fait tailler en pièces de manière absolument épouvantable en essayant de percer ces fameuses défenses russes. Je dirais aussi que, pour revenir un petit peu à une considération économique, parlant de la Russie, on se rend compte que la Russie, c'est un pays où environ entre un quart et un tiers, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais entre un quart et un tiers du PIB, c'est l'industrie. Si on compare avec la France où c'est moins de 10%, les États-Unis, je crois qu'on est entre 10 et 15. Voilà, on comprend que on a essayé de mettre à bas un pays qui a toutes les matières premières, ils ont les hydrocarbures, mais ils ont les métaux, ils ont le bois, ils ont les matières premières alimentaires, céréales, fruits, légumes, ce que vous voulez. Et ils ont en plus de ça conservé sur leur sol une industrie. Et actuellement, on a les responsables de l'OTAN qui expliquent qu'ils n'arrivent plus à fournir des obus à l'Ukraine parce que les stocks sont à sec et que les capacités de production sont insuffisantes. La Russie est rentrée en économie de guerre et ils ont des usines qui tournent à plein régime pour produire des obus, pour produire des armes, pour produire des drones. C'est une guerre. Il faut visualiser la guerre entre la Russie et l'Ukraine comme la guerre de 14-18 avec les drones et l'observation satellite en plus. Donc ça, ce qui change pas mal de choses. Mais voilà, actuellement, on est dans une guerre d'attrition, c'est-à-dire que chaque camp essaye de causer le maximum de pertes à l'adversaire et en tout cas, depuis plus de 6 mois, si ce n'est plus, la Russie a clairement l'avantage à ce niveau-là. Ce type de conflit, on compte le nombre de canons qu'on peut aligner par kilomètre, parce qu'on sait que 80% des morts, c'est de l'artillerie, artillerie ou assimilée, hein, les drones kamikazes, tout ça, c'est assimilé à de l'artillerie. Et donc, les Russes peuvent aligner 4 à 5 fois plus de canons kilomètres que les Ukrainiens, donc ils font 4 à 5 fois plus de pertes, quoi. C'est très mathématique. Donc pour l'instant, les Russes sont plutôt en bonne position. Alors ça peut évoluer, mais on se rend compte qu'on est quand même les Ukrainiens en sont quand même à la troisième armée qui met face aux Russes, si vous voulez, l'armée du début de la guerre entre les pertes matérielles, les pertes humaines, que ce soit les morts, les blessés, les prisonniers, elle a été complètement mise hors de combat. Il y en a eu une deuxième qui est intervenue il y a à peu près 8-9 mois, donc entraînée et équipée largement par les Occidentaux, par l'OTAN. Là, on en est à la troisième. Tous les matériels qu'on a fournis aux Ukrainiens ont été jetés dans ces offensives un petit peu désespérées. Et voilà, les chars Léopard, les blindés Bradley américains, tout ça, c'est détruit à plus de minimum 50%.
Peut-être qu'on verra bien, parce que la Russie est une dictature quand même. On verra bien ce qui va se passer là avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'il va rester au pouvoir ou il sera éliminé à un moment donné? Peut-être que ceci aussi, ça a joué sur le fait que la Russie a mal fait, tout du moins ce que vous dites au début, là. Donc,
Oui,
mais bon.
ça effectivement, l'avenir politique de la Russie est certainement incertain, si vous me passez l'expression. Alors, ce qui est par ailleurs exact, c'est que ce que je vous citais tout à l'heure, comme les Russes commencent mal les guerres et ils les terminent bien mieux qu'ils ne les commencent, c'est une constante historique. C'est dû à des erreurs très manifestes sur ce cas d'espèce, du renseignement russe, de l'état-major russe, voilà, qui a mal évalué la situation. Mais qu'il s'agisse des campagnes napoléoniennes, qu'il s'agisse de la Première Guerre mondiale, qu'il s'agisse de la Seconde Guerre mondiale, les Russes ont toujours mal commencé les conflits, pour toute une série de raisons. Et une fois qu'ils sont, voilà, ils sont assez lents à la détente, on va dire. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans une dynamique de guerre, ils terminent beaucoup mieux les conflits qu'ils les ont commencés. Donc, c'est pas une loi absolue. On verra ce qui va en être pour le cas de l'Ukraine. Mais en tout cas, Il y a de nombreux précédents historiques qui laissent à penser que, voilà, que cette situation que connaît le front de la guerre russo-ukrainienne n'est pas quelque chose d'inédit.
Stanislav Tarnovski, merci beaucoup.
Avec grand
Et
plaisir.
puis, j'espère qu'on va se revoir ici sur Zoom, peut-être en personne bientôt. Merci
Avec
beaucoup.
très grand plaisir. Merci beaucoup.
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Rock.
N-avea cum să fie ușor. Și poate irosesc de dor, de dor, de dor. Toate amintirile, iar captiv în mintea mea. Eu ți-aș da totul de tot să te simt pe loc. Tu șurăm că n-o să mai pleci. Dacă nu mai e foc, te aprind la loc. Tu ține-mă în stânga ta. Acoperă-mi inima, inima. Cu tine sau mai bine cu umbra ta. Cum se face că uneori ajunge în iubire, dar dor. Acoperă-mi inima, inima. Cu tine sau mai bine cu umbra ta. Cum se face că uneori plata se face cu dor.
Eram un suflet lefter și mi te-am luat ca job. Inimă de oțel, fără vreun țel, te-am luat ca scop. Credeam că vrei un partener, dar tu voiai un rob. Care să tragă, să facă totul frumos ca în Photoshop. Mă plăteai cu buze calde în zile reci de iarnă. Sau te lepădai de bluze fade într-un tablou de toamnă. Îmi serveai doar vorbe dulci într-un argou de doamnă. Dar iubirea ta era cuvânt și nu știai ce înseamnă. Mă plăteai din ce în ce mai prost. Deja iubeam pe credit și dragostea în rate n-are rost. Pentru toate zilele în care te îmbrăcam în flori, te-am lăsat pe cont cu un mare deficit de dor. Uite de misie.
Acoperă-mi inima, inima. Cu tine sau mai bine cu umbra ta. Cum se face că se face cu dor.
Papa
Bye.
visele astea nu tac.
Rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Că poeții pe jos, iar fetele pe val. Toată lumea e cu mâinile în aer. Băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac.
Nu-mi găsut la replic!
Mes oreilles.
Écoutez,
le cash, ça change le monde.
En est,
j'ai une histoire à raconter.
Un million, qu'est-ce que
tu dis? Écoute
ça. Un million.
Le cash a fait de toi ce que tu voulais. Mais le voulais-tu vraiment? Tout a une fée et un jour tu le subiras. On dirait que c'est quand tout va mal que tu laisses tomber. Mes frères qui aujourd'hui ne le fait sans dans sa pitié. Avec une petite jour en lutte après les stéréotypes. Quel est ton type qui connaisse toujours à l'abandonné? Qu'est-ce que tu disais à propos de cash? Réplique fort comme avec le H.
Avec le crash dans la rage.
Ton lit est comme le cinéma. Les murs en ont une espace. Combien de temps as-tu perdu pour avoir eu un orgasme? Je réplique, j'ai de la misère à croire. Il me semble qu'il y a d'autres choses d'un sort à faire avant d'en voir. Mais t'es une salope à temps partiel à se faire fourrer. Je sais que ça paraît pas pour toi, mais les preuves sont de mon côté. Qui a perdu ses amis? Qui est aujourd'hui seul? Il te reste le cash oublié. T'aimerais que je ferme ma gueule.
Je rêve de rêve comme toi depuis ma tendre enfance. Puis toi tu me plaques là pour un gars de la France.
Fuck that!
T'as fini de me surprendre. Quand tout a débuté, tu te rappelles. T'étais en bas déjà, déjà prêt à aller au ciel.
Et je t'ai reconstruit à la hauteur d'un gratte-ciel.
Après, tu me lances en bas du 20ème. Ça, j'ai toujours pas compris, mais où est passée la flamme qui m'allumait, qui m'éclairait le chemin de la vie?
C'est que j'entendais le nom quand soufflait le vent.
Je sais que j'ai pas le plus brillant, mais j'ai toujours été un des plus compétents. Pourquoi avoir oublié aussi rapidement les bons moments passés à mes côtés? Comment tout ça a pu arrêter? Du jour au lendemain, tu peux sortir comme un gamin plus petit que net. Mon mental, pire qu'une journée trop matinale. Arrête de jouer la femme fatale. Tout le monde sait que ta ville natale est Montréal. Faut ton génie que j'avais gagné là.
La fourcade.